Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Voilà, vous venez de passer un test de dépistage volontaire du VIH-SIDA. Le résultat peut être négatif, tout comme il peut être positif. Après avoir pris connaissance de son état sérologique, quelle est l'attitude à adopter en cas de contamination ou si l'on n'est pas contaminé? Marie-France Bilonda, agent médical à Mokongo, est là pour nous en parler. Bonjour madame.
Bonjour encore une fois.
Alors, le test, le dépistage volontaire du sida, c'est quoi et comment ça se passe exactement?
Ok, le test de dépistage du sida, du VIH plutôt, c'est vraiment la porte d'entrée pour une bonne planification du futur. Il est volontaire, d'abord, ce dépistage-là. Volontaire, mais très, très utile dans la vie. Parce que d'emblée, je vous dis qu'un séro ignorant est plus dangereux qu'un séro positif conscient de sa sérologie.
Oui.
OK. Comment il se passe? Il y a plusieurs centres, par exemple, en RD Congo, là où vous pouvez vous présenter. On les fait gratuitement et normalement, quand c'est le test rapide, les résultats, c'est dans les 15 minutes qui suivent.
Oui.
Ah, OK. Que faire après le test? Je ne sais pas si je peux déjà...
Oui, allez-y.
OK. Le résultat peut être négatif, c'est-à-dire il n'y a pas d'anticorps anti-VIH, tout comme ça peut être positif, c'est-à-dire on a été contaminé.
Oui.
Alors, la conduite à tenir...
Souvent, c'est la panique, hein, surtout quand les médecins vous annoncent la nouvelle. Voilà, monsieur, c'est la vie, tout ça, ils commencent par vous préparer, vous voyez, donc c'est pas la finalité.
Okay. Et,
alors là, une personne peut piquer même une crise après, hein.
Je ne pense pas avec l'évolution actuelle des sciences médicales plutôt.
Oui.
Il y a toute une formation, il y a des gens formés préalablement pour conduire à ce que les personnes fassent leur test de dépistage sans beaucoup trop de stress.
Oui.
À moins que vous puissiez tomber sur quelqu'un de non encadré, bien non formé.
Non formé.
Mais,
oui.
Mais sinon, maintenant, là, c'est devenu un peu plus pratique.
Il faut une personne qui vous met en confiance.
Ok.
Qui vous rassure, quoi.
Ok. Et surtout que jadis, la peur était liée dans le fait que l'après-dépistage était méconnu. Que faire après? Mais aujourd'hui où l'après-dépistage est connu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire après le dépistage, je pense que la peur tend à diminuer de plus en plus. Ok.
Mais il semble qu'il y a eu des gens qui ont tenté peut-être de se suicider. Quand on leur a annoncé cette nouvelle, c'était comme une bombe. Voilà, tu es atteint. Et puis, il a vu, c'est comme si le ciel s'écroulait sur sa tête. Hein.
Ah, ok. C'est comme je venais de le dire. Quand on est devant quelqu'un déformé, déchevronné, qui vous conduit pendant le processus, je pense que cette préparation psychologique est atténuante. Ça atténue les chocs et tout. Mais malheureusement, si on tombe sur quelqu'un qui
n'est pas formé.
Okay,
et
là,
comment s'est fait cette conduite?
La conduite, il y a une préparation psychologique avant le dépistage. C'est-à-dire, il y a d'abord une information complète et correcte sur le VIH-SIDA. Ensemble, avec le concerné, la personne qui vient faire son test, nous évaluons les risques encourus. Pourquoi on les évalue? C'est pour voir, pour déjà négocier quels peuvent être les résultats. Parce qu'en fait, qui doit faire les tests? C'est toute personne qui se connaît, qui reconnaît s'être exposé à l'un des modes de transmission. OK? Donc, quand on entend parler des modes de transmission, que chacun puisse faire un examen de conscience pour voir s'il se retrouve dans l'un des modes, voilà la personne qui est censée se présenter dans un centre de dépistage. Alors, quand la préparation pré-test est correctement faite, très bien faite, on demande le consentement éclairé de la personne. Après tout ce qu'on s'est dit, êtes-vous prêt à faire ce test, à passer ce test? Si la personne tient et dit oui, je suis prêt, il n'y a pas de problème, on passe au prélèvement. Et là,
mais si elle n'est pas prête?
Bon, si elle n'est pas prête, il n'y a pas de problème, on lui demande le pourquoi. Pourquoi vous n'êtes pas prête ou bien prêt? Quand elle nous le dit, et nous l'orientons. OK?
Oui.
Et s'il est consentant, il y a le prélèvement. Et après...
Et s'il vous dit non, je préfère que le test qu'on puisse le faire un autre jour.
Oui, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème.
J'ai souligné sur le mot, sur le caractère volontaire du dépistage.
Oui.
OK? S'il dit que je ne suis pas prêt aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On cause et on fixe un autre rendez-vous.
Mais est-ce qu'il peut arriver que vous allez à l'hôpital pour un autre cas de maladie, mais le médecin ou, l'infirmier, il en profite pour vous faire un test sida sans que vous le sachiez?
Normalement, ce n'est pas une bonne méthode. Parce qu'en fait, même quand nous apprenons dans des universités partout, d'une manière générale, les sciences infirmières ou la médecine, on nous apprend qu'il faut toujours expliquer tout geste qu'on pose sur le malade, lui expliquer le pourquoi, les avantages de ces gestes-là.
Mm-hmm.
Donc, normalement, comme je viens de le dire, il faut préalablement préparer la personne et lui dire le pourquoi, le bénéfice. C'est vraiment bénéfique. Bien que c'est volontaire, je souligne que c'est vraiment bénéfique.
C'est bénéfique.
Oui, très.
Alors, il arrive que, voilà, après le test, on vous dit, voilà, vous êtes atteint.
Mm-hmm.
Alors, quelle attitude adopter à ce moment-là?
Oui, je ne sais pas si ça ne vous gêne pas qu'on commence d'abord par la séronégativité.
Oui,
parce que beaucoup de gens, de gens pensent que quand on est séronégatif, il n'y a pas des orientations. Non, il y en a.
Voilà.
Il y a des orientations.
Oui.
Ok. Une personne qui est dépistée séronégatif, il doit d'abord très bien comprendre s'il n'est pas pendant la période fenêtre ou muette. C'est-à-dire, c'est une période où, après infection, les anticorps antiviraux ne sont pas encore détectables au laboratoire.
Mmh.
OK? Alors, pour cela, il faut que nous puissions, comment je peux dire, évaluer le comportement des 3 mois qui ont précédé les tests. Cela revient à dire, même quand quelqu'un vous brandit un résultat de séronégativité.
C'est pas toujours sûr.
C'est pas toujours sûr. Pour, hein, comment je peux dire, en fonction de ce que je viens de dire.
Mmh.
Alors, si la personne comprend qu'elle est où il est. Pendant la période muette, vraiment la conduite à tenir, c'est revenir 3 mois et 2 semaines après l'acte exposant, le dernier acte exposant, refaire encore pour voir si la séronégativité perdure ou bien est de mise encore. Okay?
Mmh,
si la personne n'est pas dans la période muette, ok, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est vrai, je suis venu, je fais mon test, il n'y a pas eu une exposition dans les 3 mois qui ont précédé mon test, je suis ok, bravo, je suis séronégatif. Mais que faire? Parce que la séronégativité ne confère pas l'immunité. Tu peux être séronégatif aujourd'hui, mais si tu te comportes mal demain, tu tombes dans la chose.
Oui.
Il faut continuer avec les bonnes pratiques. C'est-à-dire l'abstinence pour ceux qui le peuvent.
La fidélité.
La bonne fidélité. Pourquoi j'ai dit la bonne?
Oui.
Il y a une différence.
Il y a aussi une mauvaise fidélité.
Non, je n'ai pas dit qu'il y a la mauvaise fidélité, mais la bonne fidélité, c'est-à-dire les deux partenaires, bien les, en fait, les deux partenaires qui sont... Qui veulent cheminer ensemble sur le plan sexuel, les deux connaissent préalablement leur statut sérologique, ok? Mmh. Et après, maintenant, ils pratiquent la fidélité, c'est ça la bonne fidélité. Un exemple, un jeune homme qui est déjà atteint, mari ou bien est partenaire à une fille. Ils sont fidèles. La fille sera contaminée, oui ou non? Elle peut l'être. J'aimerais qu'on puisse vraiment faire une nette différence entre la bonne fidélité et la fidélité, ok?
Tous les deux sont fidèles.
Tous les deux sont fidèles. C'est-à-dire, il était déjà atteint avant, par exemple, qu'il se rencontre. Après, il se rencontre, il est séro-ignorant. Ils sont fidèles, n'est-ce pas?
Si.
Mais est-ce que celle ou celui qui n'était pas dans les cas peut le devenir, oui ou non? Oui.
Oui.
Ah, ok. Voilà pourquoi je voulais faire une démarcation nette entre la bonne fidélité et la fidélité tout court. Il faut la bonne fidélité. Connaître préalablement les statuts et puis après, vous vous engagez dans la chose. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas, respecter l'abstinence ou la bonne fidélité, en cas de, il faut utiliser le préservatif. Vraiment. Systématiquement.
Oui.
Ok. Et mais aussi, il faut dire que le VSM n'est pas seulement le sexe. Il y a aussi le sang. Donc, attention aux objets tranchants.
Les objets tranchants, oui.
La transfusion sanguine doit être vraiment indiquée pour qu'elle puisse se faire. Et avec du sang, des banques de sang bien testées.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Okapi.
Dans cette émission, les auditeurs appellent des partout, ils nous suivent des partout à travers le pays, ils posent leurs questions, vous êtes là pour leur rendre service. Nous avons Sifa qui nous appelle depuis la ville d'Mbandaka. Sifa, bonjour.
Bonjour, Nariya Tunago.
Oui, Sifa.
Bon, moi, tout l'anglais, c'est une bouche. Bon, ça, c'est ça, obligatoire, moi, tout l'anglais, c'est ça, le test, c'est l'accident.
Ok, merci pour la motuna, Madame Marie-France Lovini, la motuna.
Ok, na lingina na bandela na lobake. Normalement, dépistage est volontaire, mais est vraiment bénéfique. Et na zongeli phrase na lobaki, quelqu'un qui se connaît muto ami yebi. Attention, gaza c'est possible, mais c'est ami yebi, c'est moins dangereux que muto ami yebité. Ok.
Je crois qu'elle a dit. Donc, la personne qui n'est pas. La personne
ignorant
est très dangereuse.
Oui.
Parce qu'elle peut distribuer la maladie à gauche, à droite.
Oui, il y a ça. Et puis, il peut prendre une décision dans la prévention. Mais est-ce que c'est une bonne décision? D'autant plus que cette prévention, vous la prenez par rapport à quoi? Et cette prévention, il peut l'appliquer dans certaines circonstances et dans d'autres non, parce qu'il est séro-ignorant.
On a lu dans certaines revues qui parlaient du sida, une personne qui va pour le test et puis après, on lui dit, voilà, vous êtes atteint et la personne développe des très mauvaises pensées et se dit, voilà, je vais distribuer la maladie à qui mieux, et comme ça, je vais étendre la chaîne.
Ah,
ça arrive de tels comportements. Hein?
Ça arrive seulement si on n'est pas bien encadré et bien informé. Parce qu'en fait, en pensant distribuer, on se tue d'abord soi-même. Pourquoi je le dis? Une personne qui est atteinte du VIH, quand elle va en contact avec une autre personne qui l'est aussi, il y a une surinfection donc. Il y a accroissement de la virémie. Et en plus de cela, on peut même hériter des souches résistantes même au traitement, par exemple. Vous voyez. Donc, quelqu'un qui croit poser un acte pour nuire aux autres, se nuit d'abord lui-même, d'une manière catastrophique. Donc, c'est pour dire que, normalement, une PVV, nous ne disons pas SIDA, c'est trop cruel, nous disons PVV, personne vivant avec le VIH. Une PVV bien informée, bien encadrée, c'est trop rare. Hein, qu'il puisse développer de telles tendances. J'ai parlé des séronégatifs.
Oui.
On peut parler aussi des séropositifs. On va dans un centre, c'est positif. On dit à la personne que la personne est atteinte du VIH. Ce n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas la fin du monde.
Mais quelle est la première réaction quand la personne apprend ça?
Ça dépend de plusieurs choses.
Oui.
Plusieurs facteurs. Si, par exemple, il est allé dans un centre là où on a réellement et correctement évalué les risques encourus, souvent la personne sort déjà avec une petite image de ce que peuvent être ses résultats, parce que préparé par rapport à ce qu'a été sa vie antérieure. C'est pourquoi je vais le répéter pour dire que le pré-test, cette préparation avant le test est plus qu'importante. C'est vraiment la colonne vertébrale de la réussite de tout ce qui va arriver après le test.
Après, oui. La préparation psychologique.
Oui.
Patrick nous appelle, il est à Kinshasa. Patrick, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai une préoccupation par rapport à la prise en charge au VIH.
Oui.
Nous assistons à des cas d'accidents de circulation. Ok.
Oui.
Est-ce que j'ai l'impression que dans les centres hospitaliers, on s'affaire plus au traumatisme lié directement à l'accident. Or, pendant cet événement, il peut y avoir eu transmission de VIH parce qu'il y a un nombre important de blessés. Et que, surtout, ces personnes-là n'ont pas la même identité sérologique non plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là?
Je ne sais pas. Je vais répondre sur deux volets. Pour les accidentés qu'on amène, le test de VIH peut leur être proposé comme tout autre test, comme tout autre examen médical, qu'on peut leur proposer, mais tout en leur expliquant les bénéfices, comme M. Patrick vient de le dire, il y a plusieurs personnes avec des blessures, avec des identités sérologiques différentes, ok? Mais pour ce qui est de personnel médical, j'ai dit que je vais répondre sur deux volets, pour ce qui est de personnel médical dans les hôpitaux, ce n'est pas un sujet pour stigmatiser les accidentés qui arrivent, parce que nous avons appris dans nos écoles, dans nos universités, les gestes universels que nous pouvons poser pour nous protéger contre contre la contamination entre le malade qui s'amène ou bien le patient et les agents médicaux. Je ne sais pas si Patrick est satisfait de la réponse.
Oui, allô?
Oui.
Oui, bon, ben, je suis satisfait en partie, mais bon, ma préoccupation reste quand même précise parce que la personne traumatisée est supposé ne pas être suffisamment alerte au moment du lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital. Alors, souvent parce que les services de secours dans notre pays aussi n'existent pas. Ce sont des personnes de bonne volonté qui acheminent les blessés.
en fait, votre préoccupation est plus liée à la, en fait, au test à faire par rapport à l'accidenté qui n'a pas toutes ses facultés en place, je pense, si je peux comprendre comme ça.
Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire la prise en charge au moment de l'accident et après l'accident.
Au moment de l'accident.
Sur moi, notamment, parce que, bon, on peut avoir été blessé de manière bénigne, mais il y a eu contact avec une personne infectée. Et on reste marqué à vie. Sans le savoir non plus. Et plus,
bon,
ce sont des conséquences. Et très souvent, bon, les personnes qui veulent stigmatiser, bon, ben, ils n'hésitent pas pour dire que non... sa vie n'était pas correcte, mais pourtant, il s'agit peut-être d'un cas de contamination à partir d'un accident bénin.
Voilà. Merci beaucoup, Patrick, pour votre préoccupation. Oui, c'est vrai, parce que quand il y a un accident, vous êtes blessé, l'autre est blessé, peut-être qu'il y a, il peut y avoir contact du sang à ce moment-là, il peut y avoir infection.
Mais oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand, par exemple, on parle du VIH, la stigmatisation n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Parce que les modes de transmission, comme je l'ai dit, sont multiples et divers. Il n'est pas dit que qui dit VIH dit sexe. Non. Il n'est pas dit ça.
Oui.
On a parlé du sang. Quand on parle du sang, on parle de la transfusion, on parle des objets tranchants, tout comme les accidents qu'on vient de le dire, Monsieur Patrick.
Oui.
Il y a de ces enfants-là qui passent que la maman est porteuse du VIH et qu'elle a mise au monde, elle a porté d'abord sa grossesse dans une certaine condition et surtout peut-être séro-ignorante et qu'elle a mis au monde dans une certaine condition, que cet enfant-là, c'est, comment je peux dire, c'est cet innocent-là est séropositif. Oui. Voilà ce que j'aimerais qu'on sache comme information initiée pas de stigmatiser qui que ce soit. Parce qu'en fait, les examens montrent juste qu'il y a VIH ou pas, mais ça ne montre pas par quel mode de transmission on a eu ce VIH.
Voilà, mais les gens ont toujours tendance à dire, voilà, c'était à cause de son... C'était un vagabond sexuel, voilà, et ce qui est arrivé aujourd'hui.
Mais voilà là où normalement nos médias devraient jouer un rôle mais important. Voilà. Je sais qu'en décembre, il y aura plusieurs émissions, mais après, on s'était. Non. C'est à
voilà.
chaque minute qu'on a à les infecter, à chaque minute qu'on a
il faut en parler
je
aussi.
Je pense que chaque jour il faut
en parler.
Okay.
Nous avons en ligne Kenneth depuis Siro, dans la province orientale. Kenneth, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, mon problème c'était, je voulais savoir, parce que s'il y a une forte sensibilisation pour les dépistages volontaires, il y aura beaucoup de personnes qui vont s'y diriger. Mais le problème se pose seulement l'après-test. S'il s'avérait qu'il y a beaucoup de ces membres-là qui se sont dirigés au dépistage volontaire, il s'avère qu'il y a beaucoup d'entre eux sont séropositifs. Est-ce qu'on aura assez d'antirétroviraux pour pallier à leur situation?
Ok, à entendre Kenneth parler, je pense que c'est quelqu'un de quand même bien informé, parce que quand quelqu'un peut déjà parler de cette manière-là, on sent que, ok. Il faut d'abord savoir que l'essentiel, c'est d'abord de connaître son statut sérologique, très important, ok. Et puis, il n'est pas dit que tout séropositif doit nécessairement commencer les antirétroviraux, pardon, dès le dépistage, non. Il y a des normes à suivre. Ok. Mais néanmoins, quand on connaît déjà préalablement son statut, c'est déjà une très bonne chose, parce qu'on devient conscient de deux. On est suivi même pour les infections opportunistes et autres choses. Et quand on sera éligible effectivement aux antirétroviraux, il faut qu'il y en ait. Voilà ici peut-être une occasion de lancer, un appel ou bien un cri de cœur pour dire que c'est vrai. Ça peut constituer un problème, comme Kenneth vient de le dire, des antirétroviraux.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Vous apprenez que vous êtes, on vous dit, voilà, après le test, vous êtes séropositif. Alors, en rentrant à la maison, il faut le dire à vos frères et sœurs, à votre épouse ou à votre mari.
Ah, ok. Les PVVIH doivent savoir qu'ils ont des droits et des devoirs. Ils ont droit à la confidentialité. C'est-à-dire, je reçois quelqu'un, il est séropositif, il ne m'est pas permis de divulguer son statut à qui que ce soit, si ce n'est sur permission du concerné ou bien de la concernée. Mais ça, c'est un droit. Mais à côté des droits, ils ont des devoirs. Pour ceux qui ont des partenaires, c'est un devoir.
Des partenaires multiples.
Normalement, je voudrais dire ceci. Quelqu'un qui est séropositif a le devoir d'informer son réseau sexuel. Ok? Parce que lui, il vient de le savoir maintenant. Qu'en est-il de ceux-là? Qu'en est-il de celles-là? Ça, c'est un devoir.
Donc, il doit appeler...
Pas appeler. Nous sommes là pour aider et oui. Il y a plusieurs manières. Ça dépend des cas. Je ne peux pas dire qu'il y a une manière là, comment je peux dire, un schéma qu'il faut suivre. Oui. C'est le cas par cas. Et quand la personne vient nous dire sa difficulté de divulgation, par exemple, nous l'aidons, c'est long. Beaucoup de points que nous prenons en compte.
Par exemple. Vous allez appeler ses copines et copains. Est-ce que vous pouvez passer au centre tout ça?
Non, on ne peut pas le faire. Parce que c'est elle ou bien lui qui peut identifier la manière correcte de cette divulgation. Mmh. Alors nous allons seulement l'orienter. Parce qu'en fait, notre travail, c'est informer, conseiller, orienter. C'est la personne qui connaît la mieux comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Et alors, après, nous, maintenant, avec tout ce que nous avons eu comme aptitude et tout, nous savons comment arranger le cadre et comment le faire pour que ces devoirs-là puissent être mis en application.
Il y a une question d'un auditeur qui nous disait, est-ce qu'il peut y arriver d'avoir des relations sexuelles avec une personne atteinte, mais après cela, vous n'êtes pas atteint?
J'aimerais qu'on puisse bien se comprendre sur ça. Oui. Parce qu'il ne faut pas que ça puisse être une raison que les gens puissent aller se méconduire.
Oui.
Ce que nous savons scientifiquement, c'est que toute personne qui entre en contact avec le VIH, il faut qu'il y ait des co-récepteurs sur, en fait, ça ce sont des termes purement médicaux, sur ces CD4 pour que le VIH puisse coloniser l'organisme. Mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que nous avons plus de 100 couples aujourd'hui, là où moi j'œuvre, où je travaille, j'évolue, qui sont sérodifférents. C'est-à-dire, l'un est dans le cas, l'autre ne l'est pas. Mais cela ne signifie pas qu'il faut continuer à se conduire comme on le veut. Mmh. Parce que jusque-là, la raison pour laquelle ceux-là qui ne sont pas encore atteints jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ne les sont pas...
Est-ce qu'ils ont des anticorps
Non, pas les anticorps. Je venais de parler des récepteurs. Peut-être ils n'ont pas de récepteurs. J'ai bien dit peut-être ils n'ont pas de récepteurs.
C'est quoi les récepteurs
C'est, en fait, pour parler d'une manière assez simple pour que tout le monde nous comprenne, le VIH et notre organisme, c'est comme le système de la clé avec la serrure. Pour que vous ouvriez cette porte, il faut que vous puissiez introduire la clé dans ce vous. C'est comme s'il y a certaines personnes qui n'ont pas cette serrure-là pour que le VIH ouvre pour rentrer. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun examen qui détermine qui n'a pas de co-récepteurs et qui l'a. Qui l'a.
Voilà, on y revient tout à l'heure. Nous avons en ligne Kasongo qui nous a appelé à Kinshasa. Bonjour Kasongo.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
J'ai ma préoccupation. Nous avons un problème au niveau de notre famille.
Oui.
Notre sœur vit avec son mari qui est séropositif. Et chaque fois que nous amenons notre sœur à l'hôpital, elle est séronégative. Nous avons demandé à notre sœur de pouvoir quitter le lieu, sinon elle sera contaminée. Elle s'entête pour nous dire que nous avons célébré le mariage religieux. Et nous avons juré de pouvoir supporter le pire et le bonheur. Et elle continue à vivre avec ce monsieur. Moi, je voudrais ça. C'est paradoxal. On n'arrive pas à comprendre. Puisque deux fois que nous sommes allés avec elle à l'hôpital, et elle est séronégative. Alors, je ne sais pas
qu'est-ce que vous pouvez
nous donner comme conseil.
Ok, Monsieur Kasongo, merci pour la préoccupation. Je pense que si vous m'aviez bien suivi juste avant que vous ne puissiez parler, je venais de parler de couples séro-différents. C'est possible que ça puisse exister, c'est-à-dire l'homme est dans les cas, la femme n'est pas dans les cas. Vous savez, pour les gens qui ont le VIH, le PVVIH, le mariage c'est un droit. Mais seulement, il faut savoir comment le mener. C'est-à-dire quoi? Pour le cas de votre sœur, comme elle aime son mari, il n'y a pas de problème qu'elle continue avec son mari, mais tout en se protégeant. C'est-à-dire, les relations intimes demeurent, mais avec protection, avec préservatif. Il ne faut pas. Parce que quand vous dites à votre sœur de quitter le mari, c'est une stigmatisation. Donc, vous stigmatisez le monsieur, en fait, ce beau-frère-là, si je peux l'appeler.
Peut-être qu'ils ont déjà des enfants aussi.
Mais même s'ils ont des enfants, comme la femme est saine, les enfants sont sains aussi. C'est-à-dire aussi, ce que vous venez de dire, c'est vrai. Dire divorcer, c'est-à-dire laisser ses enfants-là sans papa. Mais moi, je pense que la position de la petite sœur est tout à fait bonne, pourvu qu'il puisse se protéger avec son mari en utilisant des préservatifs lors des rapports sexuels.
Voilà. Ogi, elle nous appelle depuis Kolwezi au Katanga. Ogi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Allez-y, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, ma préoccupation, c'est ma situation, c'est celle-ci.
Oui.
Moi, j'ai pensé que les tests SIDA pouvaient être considérés au même titre que tous les tests, comme les examens de gouttes et fesses et autres, pour mieux détecter les gens. Quand nous recevons les malades en consultation, nous leur passons les tests de Guadeloupe, TPS et autres, donc nous ne demandons pas leur avis. Alors, pourquoi les tests de VIH-SIDA doivent être conditionnés par la veille du malade, ou bien l'éveil du malade? C'est ça ma préoccupation, en tout cas.
Ok, cher confrère, je comprends que vous êtes du domaine. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que nous disons qu'il doit y avoir un consentement éclairé préalablement pour le VIH? Parce que toute la suite d'après dépend de ce consentement-là. Que ça puisse être l'adhérence à tout ce que nous aurons à faire après, que ça puisse être l'observance à la future thérapie antirétrovirale si on aura à l'instaurer. Parce que nous qui sommes, qui évoluons dans ce système, nous avons compris que la plupart des patients chez qui on a eu à faire le dépistage sans leur accord, souvent, c'est chez eux qu'on a remarqué des résistances parce qu'à un moment, ils ont abandonné. Ils prennent quelque chose sans comprendre pourquoi ils le prennent et tout. Il faut savoir que la prise en charge du paludisme n'est pas à mettre au même pied d'égalité, si je peux le dire ainsi, entre guillemets, avec la prise en charge du VIH qui est ad vitam. Donc, il est à vie. À vie, mais avec comme plaque tournante la concernée. Je peux faire tout ce que je peux, selon la connaissance de ma science et tout, mais si les conseillers de la concernée ne s'y prêtent pas, ça sera un échec, ça sera...
Voilà, Madame Marie-France, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Rapidement, je vais lire quelques réactions des auditeurs.
Okay.
Il y a un auditeur, Moïse, depuis Bounia, qui dit « J'apprécie les paroles de Madame les docteurs. Je sens qu'il faut se faire dépister 3 mois et 2 semaines après l'acte sexuel. » C'est ça. Voilà, c'était là, Moïse. Une autre réaction. « 2 personnes vont se faire dépister. Les résultats donne une est malade. Comment annoncer les résultats? » Ça, c'est Winston à Isiro. Est-ce que quelqu'un peut avoir le sida et passer au dépistage plusieurs fois sans que cela soit détecté? Patrice Ambujimaï. Et puis, un autre auditeur nous dit « Bonjour, c'est Pascal Chimanga depuis Talanga. Je voudrais savoir si une personne atteinte du sida peut prendre des antibiotiques qui peuvent l'aider à vivre longtemps. » Alors, on va récapituler. Juste après le test, si vous n'êtes pas atteint, il faut reprendre le test 3 mois après. C'est
3 mois, 2 semaines, c'est seulement si vous reconnaissez vous être exposé dans les 3 mois qui ont précédé le test.
Le test. Alors, si vous êtes atteint, dans les cas où vous êtes atteint, qu'est-ce qu'il faut, quelle attitude adopter après? Il faut annoncer la nouvelle au partenaire.
Oui, avec l'aide des prestataires qui sont sur terrain, s'ils sont bien formés et rodés.
Voilà, Marie-France Bilonda, agent médical à Mokongo, merci et bon début de week-end.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Oh, Capi.